France Inter, Interclasse.
Finir sur la Lune. Je veux une maison sur la Lune. Moi, j'ai des ambitions, mais l'extraordinaire, je vous ai dit, je veux une maison sur la Lune.
France Inter, Interclasse.
Toulouse, le lycée Gallieni, au cœur du quartier Croix-de-Pierre, à deux pas des cités du Grand Mirail. Un lycée qui revient de loin. Il y a 2 ans et demi, l'établissement faisait la une des journaux.
Un départ de feu au cœur même du lycée Gallieni. Une scène devenue presque banale dans ce lycée toulousain professionnel où une centaine d'élèves tentent d'imposer leur loi. Rackets, trafic de drogue, armes blanches, agressions physiques. Dans ce lycée, 9 personnes sur 10 disent avoir subi des violences. Les professeurs évoquent un lycée au bord de l'implosion.
Si je vous dis qu'il y en a qui vomissent en sortant de la voiture pour aller faire cours, c'est compliqué. Dans certaines classes, les élèves ne veulent pas faire cours et donc ils empêchent les plus motivés d'apprendre et de réussir. Il y a des jets de chaises, des bagarres qui dégénèrent.
Certains élèves ont l'habitude de l'affrontement avec les représentants de l'État. Ça ne dérange absolument pas.
L'effet de loupe médiatique, comme souvent, confine à la caricature. Mais les problèmes existent. Les profs sont en grève et au sommet de l'État, le ministre de l'Éducation nationale intervient. Jean-Michel Blanquer se rend même à Toulouse.
Ce lycée, comme tous les lycées de France, a des points forts. Et ces points forts sont d'abord des points forts humains, c'est-à-dire une équipe de professeurs, une équipe de personnel très motivé, c'est des élèves qui ont envie de travailler, et des élèves qui ont peut-être été gênés ces derniers temps, parce que, tout simplement, le non-respect des règles de la République s'était imposé de la part d'une minorité d'élèves.
Un nouveau proviseur, habitué des zones prioritaires, est nommé, des moyens sont dégagés. Et quelques mois plus tard, la situation s'est inversée. Aux journées portes ouvertes de l'établissement, la même année 2018, le climat est plus serein.
Immersion dans le monde de l'entreprise pour ces collégiens et lycéens qui projettent de venir peut-être se spécialiser en mécanique au lycée Gallieni. Romain a avancé dans sa quête d'orientation. Il semble conquis.
J'ai déjà fait un stage où l'environnement c'était sale par terre, il faisait toujours froid et tout ça. Et ici c'est très bien. J'ai vu déjà les hangars sont gigantesques, il y a tout pour travailler donc.
Romain et sa mère ont voulu se faire leur propre idée, malgré le contexte tendu dans cet établissement, avec les incivilités et les pressions dénoncées par les professeurs ces dernières semaines.
On suit l'actualité. Moi, j'ai eu des expériences avec ma fille où ça s'est pas bien passé dans d'autres établissements. Donc, les locaux sont très accueillants. Enfin, ça donne envie, et franchement.
Vous avez généralement un emploi à la sortie.
On a un outil génial de travail. Maintenant, il faut qu'on ait des élèves aussi motivés et qui réussissent, et ceux qui viennent pour le plaisir de perturber l'établissement, mais ceux-là, on les veut pas, quoi.
En 2020, ces jours sombres du lycée appartiennent au passé. D'ailleurs, le projet Interclasse a pu se développer sans encombre dans les allées du lycée Gallieni. Élèves et enseignants impliqués, concernés, ont choisi de parler du futur. Ce sera le thème de cette émission. Et pour l'aborder, Axel Gambaracci a poussé la porte du bar-restaurant Le Pic, véritable poumon du quartier. C'est là que tout le monde se croise pour se restaurer ou boire un verre.
Denis Wetschegger est professeur en conduite poids lourd au lycée depuis 17 ans. Habitué de l'établissement, il a pu constater le changement de public.
Le public a suivi l'évolution du quartier. On est passé d'un quartier populaire à un quartier de service, avec beaucoup de bureaux. Donc l'évolution de la population qui fréquente Le Pic, elle était à l'avenant, quoi. Donc on est passé d'ouvrier avec une salopette bleue à plus de chemises, c'est sûr.
On est dans le lycée Gallieni de Toulouse, dans le couloir principal du lycée. On est avec Thomas, Théo, Mathéo et Rémi. Est-ce que vous pouvez nous dire où on va, les garçons ?
Alors, nous allons actuellement dans l'atelier de mécanique poids lourd du lycée, là où nous effectuons tous nos travaux, là où on peut exercer le métier de mécanicien poids lourd tout en s'entraînant et en apprenant au fur et à mesure.
Taïa, on est arrivé dans la salle, on voit pas mal de camions. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, les garçons, qu'est-ce que vous faites dans cet atelier ?
En fait, ici, on est là pour apprendre à travailler dessus, à savoir les pannes qu'il peut y avoir.
Tous les systèmes ne sont pas les mêmes.
Ce qu'on aime bien, c'est qu'on peut directement avoir accès aux moteurs, beaucoup plus facilement, comme ils sont déjà détachés et mis sur les morceaux de bois pour pas qu'ils bougent. Et on voit beaucoup plus le moteur comme il est plutôt que quand il est dans des camions. C'est beaucoup plus simple pour apprendre.
Là, en fait, on essaye de remonter la boîte de vitesse. Donc là, c'était pour voir tout le système d'engrenage. Là, l'étape qu'on essaye de faire, c'est réassembler les engrenages entre eux pour pouvoir remettre le carter par la suite et pouvoir tout refermer après.
C'est bon ? T'es prêt ? Ah merde ! Attends. C'est vrai que sans les
outils, c'est là. Pas... Et voilà. On mérite notre diplôme.
Donc là, on s'apprête à allumer un camion. Thomas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que le monsieur s'apprête à faire ?
Le professeur en question, c'est monsieur Joblot, qui est actuellement dans le camion de course. Alors, un camion de course, ça va être, par exemple, ce camion, il va faire du circuit. Ce camion est très spécial parce que quand même, il peut monter à 160 km/h, ce qui est un peu commun pour un camion. C'est la batterie.
Oula. Ah non, la faut pas le pousser. Non, non, mais là, il va pas démarrer. Apparemment, les batteries sont faibles. Ouais.
Le chariot, peut-être, non ?
Ah, ben si vous avez le chariot, et pourquoi pas, faut voir.
On peut essayer avec le chariot à batterie.
Attends, il faut tourner le bouton derrière. On est à 12 volts. C'est pas allumé, ça marche pas. Hein. Tournez le bouton.
C'est bon, ça y est.
Vas-y, ça y est.
Et donc ce camion va faire une course ?
Oui, vous pourrez le retrouver, ce camion, à Nougaro, le 6 septembre. Il va concourir.
Il va y avoir beaucoup de bruit, parce qu'à bord, ce mastodonte de 7 tonnes 4, propulsé par 1200 chevaux, il y a énormément de bruit, on va tourner sur le sol.
Avant, au collège, j'étais vraiment, je pense, le mec le plus timide au monde, au fond du cours, à ne pas parler. Depuis que j'ai commencé à aimer ce que je veux faire, eh bien, je me suis découvert autrement, quoi.
Ce qu'il veut faire, c'est de la mécanique. Théo Morisseau a eu 20 ans pendant le confinement. Il est blond, atteint presque le 1m70. Et à la rentrée, il sera en terminale mécanique poids lourd au lycée Gallieni à Toulouse. Mais à quelques kilomètres de là, chez lui, à Castelnau-d'Estrétefonds, il mène déjà une vie de petit papa, car le sien est chariste de nuit. Alors, pour le soulager, Théo s'occupe de ses deux petits frères.
C'est moi qui les couche. Et après, moi, j'allais au lit. J'étais fatigué. Je me suis levé à 7h30 du matin, comme ce matin, pour les lever mes frères à 8h et les emmener en cours. Les chercher, non, parce que justement, avant, on avait une moto. Mon père n'a que le permis moto, mais une place. Et du coup, là, c'est une moto avec 4 places, en fait.
Ce rythme, Théo l'assume depuis 2 ans, depuis que sa mère a quitté le domicile familial. Un départ qui a renforcé les liens avec son père, mais aussi sa confiance en lui. À 2 ans, puis à 8 ans, Théo est atteint d'un cancer des nerfs, un neuroblastome. Il sillonne les lits d'hôpitaux et devient malentendant. Cette année, paré d'un nouvel appareil auditif, il s'assume enfin.
Avant, je le mettais jamais. Parce que j'avais un peu honte, en fait, de les mettre. Et ouais, je ne les mettais plus du tout, je n'avais pas envie, tout ça. Et comme la voisine, en fait, elle travaille dans ce domaine, du coup, elle m'a dit, tu prends rendez-vous avec moi. C'est grâce à ça que j'ai pu avoir des appareils. Puis maintenant, c'est une habitude, donc ça va. Franchement, avant, j'avais un peu honte de les porter. Maintenant, ça va. Je suis fier, quoi, de les avoir. Parce que ça me change la vie, quoi. Ils arrivent que avant d'aller dormir, et c'est tout, ouais. Et sous la douche aussi, parce que sinon, ils sont morts.
Je compte avoir une famille, des enfants, une femme, une maison, une situation, quoi. Dans 20 ans. Et peut-être... C'est d'avoir une entreprise, d'inaugurer quelque chose dans le futur.
Donc ça pourrait être quoi, un garage
Ouais, un garage ou un concessionnaire ou je sais pas, mais en fait ça dépend comment les véhicules ils vont évoluer dans le futur. C'est rester sur l'idée d'être dans les véhicules, la mécanique, mais voir ce que les ingénieurs et tout ça ils vont faire pour faire évoluer. La mécanique.
Et justement, est-ce que tu crains que ça puisse enlever du travail ? C'est-à-dire, si par exemple, il y a des voitures électriques, automatiques, etc.
Je pense que dans 20 ans, on ne sera plus la même mécanique qu'il y aura là maintenant, parce qu'ils vont essayer de faire évoluer les moteurs, donc ce ne sera plus des injecteurs, des pistons et tout ça. La génération qui va arriver, elle va apprendre une nouvelle mécanique, donc c'est bien en soi.
Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu veux faire dans 20 ans ?
Moi, dans 20 ans, je veux faire ce métier.
j'espère que je vais finir mécanicien poids lourd, quoi.
Finalement, c'est des rêves très raisonnables. Hein. Vous rêvez pas de choses
extraordinaires.
Non, pas d'un extraordinaire. Non.
Et si tu devais rêver de quelque chose, ce serait quoi?
Finir sur la Lune. Je veux une maison sur la Lune. Moi, j'ai des ambitions, mais l'extraordinaire, je vous ai dit, je veux une maison sur la Lune. C'est de l'extraordinaire. Je sais que je vais jamais y arriver. Mais bon.
Je dis, peut-être aller ouvrir. Possible, essayer d'ouvrir un garage en Suisse. Parce qu'en Suisse, c'est déjà le salaire, il est plus élevé. Parce qu'ici en France, c'est trop, c'est mal payé, c'est. Pas besoin d'en parler. La discrimination et tout ça. C'est changer de pays, voir ce que ça donne dans un autre pays.
Mohamed, tu la ressens cette discrimination dans l'emploi, pour trouver pour trouver des stages, pour.
Ouais, c'est un peu dur.
T'as vraiment galéré pour trouver le stage, par exemple?
Moi, j'ai galéré, moi. Parce que je suis allé à des entreprises de poids lourd et ils me disaient. Donne ton CV et tout ça là, comment tu t'appelles et tout, et je sais pas, ils donnaient plus de réponses alors qu'ils avaient pas de stagiaire.
Est-ce que c'était l'adresse, le nom, le CV?
Mais je pense que c'était surtout secteur Mirail, tout ça là. Ils disaient non, je vais pas faire un... Alors que je sais pas, c'est vrai qu'il y a des gens, ils font des bêtises, mais on n'est pas tous les mêmes. Si je viens chercher, je prends mon temps de venir chercher un stage, c'est que je veux le faire. Et je sais pas, ils pensent comment les gens, mais... Il y a de la discrimination, c'est sûr et certain. Mais c'est dommage.
Qu'est-ce que j'irais faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Ils disent que pour tenir un couple, faut l'entretenir tous les jours. Ces connards n'y connaissent rien en amour. Comme si je devais faire un effort pour t'écouter. Comme si j'avais déjà douté. J'aimerais tes défauts si jamais j'arrive à en trouver. Rien n'a bougé depuis nos premiers je t'aime. Ça fait 7 ans qu'on sort ensemble depuis 2 semaines. Ta peine est ma peine, ma vie est la tienne. Ta famille et la mienne sont la même. J'ai abandonné ces chiennes sur le bord de la route. C'est moi qui devrais avoir des doutes parce que tu les baisses toutes. Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids. Pour moi c'est ça de prix, ça fait toujours plus de toi. Tu serais là si je repartais à zéro, à me rappeler les vraies choses, à calmer mes névroses. J'avais un petit diable sur mon épaule, maintenant j'ai ta tête sur mon épaule. Qu'est-ce que j'irai faire?
La seule vérité, nos enfants donneront aux nazis l'envie d'avoir des enfants métissés. Main dans la main, vieux et fripé. On se rappellera les soirées qu'on faisait tous les deux à fumer des clopes déchirées, à danser au milieu du salon du taffé dans 2 heures. Les yeux imbibés d'alcool, déguisés en chopper. Quand tu te marrais à mes blagues les plus nulles, quand on se donnait des surnoms ridicules. On dit que le temps détruit, mais le temps n'est pas notre ennemi. Parce que plus je te connais, et plus je me sens béni. Assez béni pour t'emmener à l'église. Dire au prêtre, oublie le truc où la mort nous sépare. On va rester dans cette vie. On aura plein d'enfants parce qu'il y a que ça qui compte. On dormira en pile et comme des maxi-monstres. Je vais enfin pouvoir me poser la réponse à toutes mes questions s'endort à mes côtés.
Qu'est-ce que j'irai faire au paradis?
Thank you.
bégaiement, c'est ma force, j'avance grâce à ça. Ce sont les mots de Matteo Pradel, 18 ans, en première mécanique poids lourd au lycée Gallieni. Matteo, bègue, a participé toute l'année au projet Interclasse à Toulouse. Avant, impossible pour lui de parler devant un micro, plus maintenant.
Ça m'a apporté de la confiance en moi pour mieux parler et pour que tout le monde qui me comprenne après.
Matteo n'a pas toujours eu du mal à parler. Son bégaiement s'est déclenché à 8 ans après un traumatisme, le décès brutal de son grand-père.
Avant, je parlais à peu près bien. En 2009, il y a eu un décès. Ça m'a vraiment choqué, on va dire, et du coup, ça m'a provoqué ça. On faisait tout ensemble, on faisait balade en vélo et tout ça. Et du coup, c'est dur maintenant.
Souffre-douleur de sa classe au collège, il regarde un jour le film Le Discours d'un roi, l'histoire du monarque George VI, bègue lui aussi. C'est un vrai déclic, le jeune garçon prend conscience qu'avec de l'aide, il peut progresser. D'abord avec une orthophoniste et depuis 3 ans avec Rémi qui partage sa chambre à l'internat.
Il y a eu une très grosse évolution du bégaiement. Au début, il bégayait pratiquement pour tous les mots. Maintenant, il arrive à enchaîner 2-3 mots d'affilée, enfin ça dépend de son humeur. À des moments, j'essaye de le faire travailler comme ça pour l'oral de français pour l'année prochaine. Il commence à parler et je devine la fin de sa phrase. Et du coup, d'un côté, ça l'aide, comme ça il voit, et après derrière, il essaie de faire toute la phrase entière.
Plus confiant et plus à l'aise en classe, Matteo se focalise maintenant sur ses cours. Très bricoleur, son activité favorite, réparer vélos, voitures et camions, un avenir déjà tout tracé.
Pendant 20 ans, être mécanicien et après être un chauffeur.
Mécanicien pendant 20 ans, car selon lui, l'électrique va modifier le métier. Cela ne l'empêchera pas de continuer à faire du vélo, sa seconde passion, et sa façon à lui de penser à son grand-père.
Voilà Greg LeMond dans la montée sur les Champs-Élysées. 4, 3, 2, 1, top! C'est fini, Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion, Robert.
Alors nous, dans le groupe où il y a Iliès, Thomas et Mohamed, nous avons choisi de parler des transports du futur.
Parce qu'on est dans un lycée où on travaille sur l'automobiliste et la logistique. Pour le futur, essayer de trouver des solutions pour les transports en commun et pour les voitures du futur. Le transport en commun le plus rapide qu'on va vous présenter, c'est l'Hyperloop. C'est une capsule qui peut transporter entre 28 et 40 personnes à plus de 1000 km par heure. Et pour mieux vous en parler, nous avons rencontré Alexandre Ziza, responsable du programme passager d'Hyperloop TT.
Alors, c'est un nouveau moyen de transport, donc on le compare pas bien ni à un train ni à un avion. Elles offrent une nouvelle solution de mobilité qui est complémentaire des autres.
Quelle énergie utilisez-vous pour propulser les capsules et à quelle vitesse commerciale va-t-elle circuler ?
Sur l'énergie, on est 100% électrique.
Avez-vous une date ou une année de lancement précise en France ou dans le monde ?
C'est aussi une très bonne question. On a des hypothèses pour notre business plan que je ne peux malheureusement pas partager avec vous. Mais enfin, on parle plutôt en années qu'en dizaines d'années. On est sur un système qui est beaucoup plus simple qu'un train ou qu'un avion. Et donc, on pense qu'il est possible de, à la fois, finir le développement, mais surtout de certifier, c'est-à-dire de démontrer la sécurité du système dans un temps qui est plus réduit que le temps nécessaire pour développer d'autres systèmes de transport qui sont dans un environnement ouvert. Nous ici, le tube apporte une grande protection et je dirais que par construction, on est sur quelque chose de très très simple qui apporte énormément d'avantages en termes de sécurité.
Ça veut dire que dans les 10 ans qui viennent, on risque de voir des systèmes Hyperloop fonctionner.
Tout à fait. Et la demande est relativement forte. On a régulièrement la visite de politiques ici. On est sur un système intrinsèquement profitable qui peut être installé sans l'argent du contribuable, contrairement aux autres modes de transport. Et c'est ce qui motive beaucoup de politiques à vouloir déployer ce système-là. Donc je pense que dès qu'on sera, on aura fait cette démonstration de safety, de sécurité, on pourra déployer le système. Ouais. Le choix des routes, on appelle ça des routes, revient aux politiques, évidemment, qui déterminent la stratégie et la politique de transport et de mobilité d'un pays ou d'une région. Nous, on a dernièrement réalisé une étude très avancée avec Chicago-Cleveland pour relier les deux villes. On nous pose souvent la question de Paris-Toulouse ou de Toulouse-Montpellier, ici en région Occitanie. Voilà. Donc nous, on participe volontiers à ces études-là, mais ce n'est pas à nous de définir comment Hyperloop s'intègre au mieux dans le dispositif de transport. Voilà.
Mais techniquement,
vous avez deux possibilités. Soit vous dimensionnez pour être en dessous de la vitesse du son, soit au-dessus. Nous, on a dimensionné pour être juste en dessous de la vitesse du son, 1200 km/h. Ça va dépendre des routes aussi. C'est-à-dire que si vous êtes sur une route courte, probablement, on n'irait pas jusqu'à cette vitesse maximum. En revanche, si vous avez 200 km à parcourir et que vous n'avez pas trop de courbes, là, vous pouvez atteindre 1200 km/h. Donc, c'est assez intéressant d'un point de vue du temps de trajet et surtout rapporté à l'énergie dont vous avez besoin pour aller à ces vitesses-là.
Combien de personnes peuvent être dans la capsule et combien de capsules peuvent être mises dans le tuyau ?
Entre 20 et 50 passagers dans les capsules. Il y a différentes configurations possibles. Le nombre de capsules qu'il y a dans un tube à un instant donné dépend de la route et de la configuration choisie. Voilà. Mais en gros, on a un objectif d'envoyer dans le tube une capsule toutes les 40 secondes. Donc ça donne une idée. Voilà. Au démarrage, ce sera moins fréquent, mais c'est un objectif que nous avons défini.
Après l'Hyperloop, la navette Easy Miles roule beaucoup moins vite. Elle permet de transporter maximum 12 passagers, 6 assis et 6 debout, à moins de 20 km/h. Une fois arrivé à un terminus de bus ou de métro, la navette permet de faire quelques kilomètres de plus pour aller dans un autre quartier ou de rejoindre une autre ligne de métro, un peu plus loin. Ça peut aussi permettre, dans de grandes usines, d'aller d'un bâtiment à l'autre en gagnant du temps. Luc Aillon est chargé de communication chez Easy Miles et il nous présente cette navette sans chauffeur.
EasyMile fait un logiciel pour rendre autonomes les véhicules. Le logiciel que crée EasyMile pour rendre autonomes les véhicules est agnostique, c'est-à-dire qu'on peut l'intégrer sur toutes les plateformes possibles. Nous, EasyMile, on est vraiment un fournisseur de logiciels, on n'est pas un constructeur de véhicules autonomes. Donc notre force, c'est de pouvoir s'associer avec ces industriels-là.
Faut-il un parcours fermé ?
Aujourd'hui, non. Pour un petit exemple, aujourd'hui, on a déployé 230 projets. Et on roule sur route ouverte, il n'y a aucun souci. La seule chose, il faut qu'il y ait un opérateur de sécurité à bord. C'est ce que la législation nous impose. C'est imposé notamment par la Convention de Vienne qui régule le trafic routier en Europe. Et le but, c'est de pouvoir rouler sans opérateur à bord, mais supervisé à distance, grâce à des caméras et des micros qui sont à l'intérieur de la navette et un centre de contrôle de notre côté qu'on développe aussi.
Cette année, y a-t-il des villes ou des entreprises intéressées ?
Il y a un réel besoin sur des gros sites, pour des gros groupes. On peut prendre l'exemple de Solvay, qui est une entreprise chimique qui est basée à Bruxelles, qui a un service de navette, ce qu'on appelle à la demande. C'est, donc les gens peuvent réserver leur navette via une application, et ce service dessert tout le site, notamment le restaurant et la crèche qui est inclus. Donc l'entreprise offre vraiment un réel service qui n'existait pas jusqu'à présent.
Comment ça marche, cette navette ?
C'est une navette qui roule sur une ligne virtuelle, c'est-à-dire qu'on pré-cartographie l'environnement sur lequel la navette va circuler. Et la navette, en fait, grâce à des capteurs, donc il faut savoir qu'on a une dizaine de capteurs devant et derrière la navette. On a ce qu'on appelle des lidars. Les lidars, c'est comme les radars, mais en fait, ça utilise des lasers. Les lidars, en fait, viennent s'accrocher aux divers éléments qu'il y a autour de la route pour localiser la navette au millimètre près. On n'est pas à quelques centimètres ou à mètres près, c'est vraiment on est au millimètre près au niveau localisation. Et ces radars aussi nous permettent du coup de détecter des obstacles.
Combien d'heures elles peuvent rouler par jour ?
C'est une navette électrique et on a une capacité de batterie de 16 heures, ce qui permet d'assurer un service vraiment tout au long de la journée si on veut. Après, ça va dépendre des conditions climatiques aussi. Par exemple, si on est à Dubaï et qu'on va mettre la clim vraiment très fort parce qu'il fait très chaud, on peut descendre aux 14h, 13h.
Alors Lise, on est au lycée Gallieni à Toulouse avec Rémi, Théo, Matteo, Zacharia et Thomas et on va discuter du reportage qu'on a fait pour Interclasse.
Oui Capucine, alors nous on a décidé de travailler sur les avions du futur, donc comment rendre les avions plus écologiques. Alors les garçons, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est-ce qu'on en est arrivé à ce sujet ?
Nous avons débattu sur un thème qui nous tenait je pense à cœur à tout le monde.
Et donc on s'est mis d'accord sur l'écologie, tous ensemble.
Donc on est d'abord parti sur l'écologie, et pourquoi est-ce que les avions en particulier, vous vouliez en parler ?
Parce que ça pollue énormément de kérosène. Nous sommes actuellement à Aéroscopia, le musée aéronautique de Toulouse-Blagnac. On se trouve dans le hangar principal du musée. Autour de nous, des avions de toute génération. Parmi eux se trouve l'IFAN FE, l'avion 100% électrique de Airbus. Pour en discuter avec nous, Fabienne Péris, responsable des collections et de la diffusion culturelle du musée Aéroscopia.
Cet avion est entré très récemment au musée, à la fin de l'année 2019, le 16 décembre. C'est d'ailleurs le dernier entrée ici au musée Aéroscopia. Du fait de sa propulsion électrique, cet avion n'émettait pas de gaz à effet de serre du tout. C'est vraiment tout l'intérêt de la propulsion électrique. Par contre, la propulsion électrique reste quand même très limitée en termes d'autonomie. Cet avion volait au maximum 50 minutes, 55 minutes. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, compte tenu de la technologie, il paraît difficile d'envisager de transporter plusieurs centaines de passagers en électrique uniquement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Airbus se lance vers un programme de recherche d'hybridation, c'est-à-dire thermique et électrique. Le but étant, à l'heure actuelle, de réduire au maximum la consommation de kérosène.
Ce projet a été abandonné en 2017, mais si certains ont échoué, la recherche pour rendre les avions écologiques ne s'arrête pas pour autant. À Toulouse, des équipes de chercheurs y travaillent quotidiennement. Nous nous sommes rendus à l'Institut de mécanique des fluides où Mariana Braza est chercheuse. Son objectif, modifier les ailes des avions pour qu'elles se rapprochent de celles des oiseaux.
Nous allons vers l'avion plus écologique. On donne une forme nouvelle, une forme optimale à l'aile d'avion qui est capable d'optimiser trois paramètres, la portance, la résistance au vent et le bruit aérodynamique, tout comme les grands oiseaux prédateurs. Nous sommes arrivés de diminuer la résistance au vent d'un ordre de 5% par rapport au design conventionnel, d'augmenter la portance d'un ordre de 10% et de réduire simultanément le bruit aérodynamique d'un ordre de 8%. Pendant un vol, je dis par exemple Paris-San Francisco, la phase de croisière dure 8h30 à 9h. Si pendant toutes ces heures, vous arrivez à assurer une résistance au vent inférieure, vous avez une très grande économie en carburant.
Des projets comme celui-là sont peut-être un jour développés à grande échelle. La technologie actuelle n'est pas capable de rendre les avions écologiques.
Je vais peut-être changer le monde, mais pour ça faut des thunes. Ça sert plus à rien d'avoir des idées. Faut que le rap conscient vive les tubes. Je suis pas vraiment rêveur. J'absorbe ce monde et sa laideur. J'habite au carrefour du globe. Là où des darons crient à l'aide. Là où des enfants dorment à l'air libre. Là où des toxos perdent la vie. Où des jeunes bravent l'interdit. Là où un keuf qui te matraque prend une prime de fin de mois. Le même qui te fera enfermer car il ment au tribunal. Oh. M'attaquer en plein cœur, mais j'ai déjà le cœur brisé. J'ai déjà vu des amoureux se planquer parce que l'un d'eux avait les cheveux frisés. Moi je m'en bats les reins que tu portes en gilbert. J'sais même pas si on se reverra là-haut. Je veux pas changer le monde avec une mixtape, mais je peux pas juste prendre mes sous et ciao. Car j'ai des petits frères, des petites sœurs perdus dans le noir. Perdu dans le noir comme je suis perdu dans le noir. Vivement qu'on s'aime, qu'on se libère de ce seum, qu'on se libère de ces chaînes, qu'on se libère de ces hommes. J'ai fermé les yeux pour oublier ce monde. J'ai fermé les yeux pour oublier ce monde. Je crois que ça vaut mieux de ne pas voir. Je crois que ça vaut mieux de ne pas voir. J'ai
fermez les yeux.
toujours au lycée Gallieni de Toulouse et nous sommes avec Matteo Lewandowski et Marceau Egea qui vont nous parler du logement de demain. Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
C'est notre avenir, c'est compliqué, c'est très important d'avoir un logement.
On est donc allé voir plusieurs personnes qui pouvaient nous parler de ce logement de demain. On est notamment allé voir Anne Mers pour savoir les dernières tendances en matière de logement. Et Patrice Simon, chercheur en chimie des matériaux, pour qu'il nous parle des batteries et des énergies renouvelables.
Quand on pense à la maison du futur, on a forcément en tête ces films de science-fiction. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la maison de demain ne serait pas bardée de technologies. Cécile Lebert, ingénieure de projet à Polyexpert, située à Toulouse.
Quand on parle d'habitat de demain, finalement, c'est presque un retour en arrière, un retour aux sources. Travailler sur des matériaux qu'on peut trouver localement, travailler en circuit court, un peu comme ce qu'on peut retrouver d'ailleurs pour s'alimenter, le même principe. Je pense à des matériaux comme le chanvre, comme la terre par exemple, des choses comme ça qui reviennent complètement, qu'on remet au goût du jour entre guillemets, et qui ont fait leurs preuves en plus précédemment. Et ensuite, il y a tout le futur, donc des choses qui n'existaient pas avant par contre.
On commence à voir les contours de la maison. Sera-t-elle plus grande, plus petite ? Va-t-on vivre dans de grandes tours ? Ou au contraire des petits espaces. Anne Mers, architecte toulousaine, a son idée sur la question.
Jusqu'à présent, le volume, ça a été luxe. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu trop consommé d'espace et de surface ? Est-ce que la planète n'est pas handicapée parce que tout le monde a cherché à avoir ce luxe et que peut-être il faudrait repenser et re-rationaliser les espaces utilisés par chacun pour que la planète souffre un peu moins ?
Comment arriver à avoir de l'énergie dans sa maison avec un impact moindre sur la planète ? Voici l'habitat à l'énergie positive expliqué par Patrice Simon, professeur en sciences et matériaux à l'université Paul Sabatier de Toulouse.
Qu'est-ce qu'un habitat à énergie positive ? C'est une maison, par exemple, où on va être capable de produire soi-même son électricité et d'avoir un cycle de consommation qui est proche de zéro, et même, voire même positif. C'est-à-dire que il faut imaginer par exemple une petite éolienne, que chacun pourrait avoir sa petite éolienne ou chacun pourrait avoir son petit panneau photovoltaïque. Et aujourd'hui, l'inconvénient, c'est que lorsque le soleil brille, le panneau photovoltaïque produit l'électricité, mais l'électricité, on en a besoin la nuit. Donc il y a un décalage entre la génération de l'électricité et son utilisation. Donc en fait, une des grosses applications des batteries pour l'habitat, c'est de pouvoir permettre aux gens d'avoir un système de stockage individualisé au niveau de la maison, qui va permettre, lorsque le soleil brille le jour, de produire l'électricité via des panneaux photovoltaïques et de stocker surtout cette électricité, cette énergie dans un système de stockage avec des batteries lithium-ion, sodium-ion, d'autres types de batteries. Et cette électricité, on pourra s'en servir la nuit pour éclairer. On pourra aussi avoir des petites éoliennes, comme je disais tout à l'heure, qui vont générer du courant avec la force du vent. Et cette électricité, on la stockera aussi. Et bien sûr, on pourra alimenter le foyer. Et cette électricité-là, donc, elle ne sera pas produite par les centrales nucléaires. Elle ne sera pas produite par des centrales à charbon. Elle sera juste produite par des énergies renouvelables. Et donc, c'est un cercle vertueux, ce qui va permettre de diminuer la consommation énergétique, le coût énergétique des bâtiments.
En France, on déménage en moyenne environ 5 fois dans notre vie. Comment la maison d'aujourd'hui pourra-t-elle convenir à tout le monde ?
Nos besoins évoluent plus rapidement que la durée de vie d'un bâtiment, entre guillemets. Donc il faut qu'il soit adaptable de plus en plus, résilient, c'est le mot un peu à la mode, mais c'est vraiment ça l'idée. Donc il nous faut quelque chose qu'on puisse rediviser. On le voit dans une vie familiale, maintenant on a une vie qui est très riche, donc on peut commencer seul, être en couple, avoir un enfant, se séparer, avoir une famille recomposée, donc on a des besoins complètement distincts. À la retraite, pareil, avoir des besoins, on n'a plus du tout les mêmes envies, etc. Donc dans une même vie, finalement, courte par rapport à la durée de vie du bâtiment, si on est dans une société consommatrice, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Donc l'idée, vraiment, c'est une résilience du bâtiment pour qu'il s'adapte au mieux à nos évolutions de vie qui, elles, sont de plus en plus rapides, je trouve. Ouais.
Le logement de demain est donc loin du tout technologique qu'on nous promet dans les films. La maison de demain est plus réaliste, plus humaine, plus soucieuse de l'environnement.
Toujours dans la cour du lycée Gallieni avec Yacine, Mohamed, Matteo et Sandra. Sur quoi vous avez fait votre reportage ?
Sur la nourriture du futur, de demain.
Nous sommes allés à Saint-Gaudens pour aller voir un spiruligneux.
Et qu'est-ce que c'est, Yacine, la spiruline ?
C'est une micro-algue qui a des bienfaits sur l'organisme. Il y a du fer, des antioxydants, des protéines, tout ça.
Et Mohamed, le spirulinier, vous a fait goûter la spiruline ?
Certains ont apprécié la spiruline, d'autres non, quoi. Je n'ai pas goûté, moi.
Pourquoi ?
Parce que j'ai goûté mes sandwichs.
Bon, on écoute votre reportage.
Allez.
On a commencé notre reportage à environ 80 km de Toulouse, à Saint-Gaudens. Daniel Soupen est spirulinier. Il habite une grande maison dans un coin un peu perdu.
Bienvenue à la campagne, à la ferme de la Spirénée.
Il y a des arbres, un champ et une grande serre sous laquelle il cultive la spiruline.
En Occident, on a redécouvert cet aliment dans les années 70. Et donc c'est là que bon, ils se sont penchés d'une manière un peu plus approfondie sur la composition nutritionnelle de la spiruline et qu'ils se sont aperçus qu'effectivement c'était un cocktail de bonnes choses, hein, riche en protéines, en fer, en éléments minéraux, en vitamines. Et tout ça effectivement permet à booster l'organisme.
Est-ce qu'on pourrait voir à quoi ça ressemble la spiruline ?
C'est ce qu'on appelle de la paillette, un vermicelle vert. Hein, donc on est sur un produit déshydraté. Donc vous voyez hein, cette paillette avec un vert profond. Bon, on dit couramment qu'il faut minimum 3 grammes par jour pour en tirer le bénéfice. Sur un yaourt, saupoudré sur une salade. Voilà. Je vous fais goûter ? Allez, dans le creux de la main, hop !
Alors, quelles sont vos appréciations, mon cher Louis ?
Particulier, oui, ça a une saveur bizarre, mais c'est pas désagréable.
Dans le milieu naturel, la spiruline vient dans des zones chaudes. Donc, on va essayer de recréer au mieux les conditions qui lui sont favorables. Donc, bon, là, une serre de 800 mètres carrés, et vous allez découvrir donc les bassins.
La spiruline est plongée dans de grands bassins exposés à la chaleur et à la lumière. Elle est récoltée tous les jours de mai à octobre.
Alors du coup, vous allez me dire, mais comment on ramasse ça ? On positionne une pompe dans le bassin. Avec un tuyau, on amène l'eau dans cette table de récolte. Alors dans cette table de récolte, vient une toile se déposer ici, une toile de 30 microns, d'une maille de 30 microns. La spiruline reste sur cette toile et l'eau filtrée repart dans le bassin.
On a lu que selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la spiruline serait l'aliment miracle du 21e siècle.
Moi, j'ai une ferme, je vis sur 400 mètres carrés de bassin. Mon collègue qui fait du bovin va vivre sur 100 hectares. Donc effectivement, ça fait partie certainement d'un panel, il n'y aura pas que la spiruline bien sûr, qui iront dans le sens de l'évolution certainement de l'alimentation de demain.
Changement de lieu, direction l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. On y rencontre Hugo Fernandez Inigo. Le jeune chercheur travaille sur le sujet de la transition alimentaire.
En France, on a quand même une culture alimentaire très particulière. Donc déjà, nous dire de manger des insectes, il y a quand même pas mal de choses qui montrent qu'on va avoir du mal à s'y mettre, quoi.
Pour Hugo Fernandez Inigo, pour bien manger demain, il ne faut pas inventer de nouveaux aliments, mais revenir à la façon dont on mangeait avant.
On n'irait pas forcément vers justement des pilules, on irait plutôt vers des modes de production plus doux, donc plus raisonnés, des aliments plus bruts. Pas forcément dans l'innovation purement technique, qui n'est pas forcément durable. En tout cas, celle qu'on a aujourd'hui n'est pas viable à long terme. Donc finalement, on reviendrait vers des modèles plus proches de ce qu'ont connu nos grands-parents, plus que ce qu'on mangerait dans des stations spatiales ou ce genre de choses, quoi. La connexion ville-campagne aussi serait beaucoup plus forte.
Un reportage de Mohamed Lemjedani, Yassine Amar, Louis Chanet et Mathias Chériot.
Est-ce que ce reportage, ça vous a fait prendre conscience qu'il fallait changer votre mode d'alimentation ?
Ouais, parce que j'ai vu que c'était mauvais pour l'environnement et du coup, ça me fait réfléchir.
Qu'est-ce qui est mauvais pour l'environnement ?
C'est de manger trop de viande.
Est-ce que vous mangez beaucoup au fast-food, par exemple ?
Ouais, franchement, beaucoup. Moi, franchement, je me vois toujours manger la même chose. Parce que ne plus manger de viande, je trouve ça contraire à l'humain, parce que ça a toujours été comme ça.
Comment ça ?
On est des animaux, enfin c'est ça, on est des animaux. Et on mange de la viande, c'est logique, non ?
Et en manger moins, tu penses que tu pourrais ?
M'en priver, non ? Parce que je sais pas, j'aime trop ça.
Never gonna give you love like ours.
love someone, 'cause I might break if you're gonna die, not by mistake. So where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely, so tell me you'll come home, even if it's just a lie. I try not to upset you, let you rescue me the day I met you. I just wanted to protect you, but now I'll never get to. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. Was hoping you'd come home. I don't care if it's a lie.
France Inter.
Un coin de verdure à deux pas des Champs-Élysées, leurs dizaines de magasins et leur folle circulation automobile. C'est dans le parc de l'Élysée qu'Emmanuel Macron essaie de convaincre qu'un nouveau logiciel écolo va être mis en marche au lendemain des municipales. Ces élections marquées par l'échec des marcheurs, la victoire des Verts dans une série de grandes villes.
On est maintenant sur le parking des ateliers du lycée Gallieni et vous avez souhaité parler d'écologie avec nous. Pourtant, vous êtes en première mécanique poids lourd. Pourquoi est-ce que ce sujet a été important pour vous ?
Quand on voit toute la pollution que peut rejeter un camion, on se dit que c'est assez conséquent pour la nature, pour tout l'environnement qui nous encadre. Mais avec l'avancée technologique de toute façon qui arrive...
Il faut savoir qu'il y a un système dans le camion qui est très utile au niveau de la pollution, ça s'appelle le système AdBlue. C'est ce qui va transformer les molécules fines en azote. Et comme l'air est composé à 80% d'azote, c'est ce qui va faire beaucoup moins de pollution, par exemple, qu'une voiture lambda.
Pour vous, il faut que les camions soient électriques.
Déjà, l'électrique en voiture, c'est déjà extrêmement cher. Alors, en camion, ça va être exorbitant. Je pense que les batteries ne seront pas assez puissantes pour ce qu'on a là en ce moment, et surtout assez grosses pour, par exemple, prendre un 33 tonnes et le tirer. Ça risque d'être très compliqué, mais dans peut-être 10-20 ans, je pense que ça pourrait être possible.
C'est ça qui est un problème aussi en poids lourd. Les camions ne vont pas pouvoir faire beaucoup de longs trajets. Ce ne sera que des courts trajets.
Et si on élargit un peu au-delà des camions, l'écologie, est-ce que c'est une question qui est importante pour vous, à laquelle vous pensez ?
Quand on parle d'écologie aussi pour le gaspillage ?
Moi, j'essaie de trier tout ce que je consomme. J'essaie de trier au maximum. Et j'essaie de prendre des objets qui sont minimum à 90-95% recyclables. Ou même pour par rapport au téléphone, où on peut, au lieu de racheter, de jeter l'ancien, on peut essayer de le réparer.
Depuis quand est-ce que vous êtes écolo ?
Depuis que j'ai entendu parler du réchauffement climatique, je me suis rendu compte que la prochaine génération qui vont, entre parenthèses, diriger la France, ça va être notre génération. Donc si on ne se mobilise pas maintenant, dans 30-40 ans, ça risque d'être compliqué. Les erreurs que l'ancienne génération a fait, je pense que grâce à ça, nous, on évitera de les reproduire.
Moi, je pense que vraiment, la politique d'aujourd'hui a réagi trop tard parce qu'on les a bien informés avant, il y a très longtemps, mais que je pense que les politiques ont ignoré. Mais quand on voit la situation actuelle avec la montée des eaux, maintenant, ils essayent de rattraper ce qu'ils ont loupé, entre guillemets, mais bon, faut mieux le faire maintenant que jamais.
Ça m'a juste aidé à travailler en groupe, quoi.
C'est la seule réponse qui sortira de la bouche de Zakaria Djennad, 17 ans, à propos du projet Interclasse à Toulouse. C'est peu, mais quand on connaît mieux ce grand ado, au regard fuyant, à la tête baissée, au sourire discret mais jamais dissimulé, on s'aperçoit qu'en fait, c'est énorme.
Je me suis dit peut-être que le problème, en fait, c'est moi, tout ça. Peut-être que c'est moi qui a du mal à... à m'infiltrer, à m'insérer dans les groupes. Peut-être que c'est ça mon problème, que j'ai du mal à rester avec les gens.
Obsédé par sa peur d'être lâche, ou bien faible, il répète ces mots comme on réciterait son mantra pour ne jamais l'oublier. Blessé par des années de moqueries et de bagarres à l'école, Zacharia a commencé le rap pendant le confinement comme l'exutoire d'une souffrance devenue trop lourde pour un ado de 17 ans.
C'est du rap conscient. Pour moi, c'est ça un bon rappeur. C'est les gens qui se rappent sur la vie, sur ce qui se passe autour de nous. Ce que les gens vivent avec les parents, mères, pères, tout ce qui se passe dans la vie. C'est ça le rap pour moi.
Et alors que rester enfermé aurait pu avoir raison de lui...
Avant, j'avais toujours eu envie de mettre fin à mes jours, de sauter de la fenêtre ou de me planter, enfin de faire quelque chose de grave.
Zacharia sort grandi du confinement. Et l'une des premières témoins reste encore Nathalie Péqueron, sa prof principale au lycée Gallieni.
Je rencontrais un Zacharia qui s'était transformé, qui avait changé, comme si le rap, l'écriture avait été sa thérapie. Et je le trouvais très serein.
Toujours à Toulouse, au lycée Gallieni, avec Zacharia en classe de première mécanique poids lourd. Alors Zach, je sais que tu préfères qu'on t'appelle le novice, parce que maintenant c'est ton nom d'artiste pour le rap. Tu peux nous dire un peu comment t'as commencé le rap ?
J'ai vécu des épreuves un peu compliquées, comme le harcèlement à l'école, le collège. Je me suis battu beaucoup de fois, que des problèmes seront physiques, et c'était très compliqué. J'ai fait beaucoup de fugues. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit « Écoute, Zach, vu que tu te sens pas bien, le mieux, c'est que tu te mettes un peu genre dans le rap, que tu commences à rapper rien que pour toi, pour que tu puisses te soulager. » quoi.
De quoi tu parles dans tes freestyles ?
De mon vécu. Même si j'ai 17 ans et que ça paraît sensé que je dise mon vécu, bah, pour moi, je sais que j'ai pas eu une adolescence simple. Du coup, je raconte mes souffrances et mes épreuves.
Et on sait aussi que tu es assez solitaire au lycée. Du coup, ça t'aide à te sentir mieux dans ta peau.
C'est ça. Parce que j'ai deux personnages. J'ai celui qui est né de naissance et qui s'appelle Zacharia. Et celui qui est né dans le rap qui s'appelle le novice. Je me sens plus libre dans mon personnage du novice que dans mon personnage du Zacharia. Quand je suis novice, je prends mon envol plus facilement que quand je redeviens normal. Quoi.
C'est la première fois que tu te retrouves devant un micro ?
Oui, je le fais d'habitude à partir de mon téléphone avec une enceinte. Je vais un peu partout pour chanter. Je chante dans les arbres, je chante dans les parkings. Mais non, en fait, avant, j'étais un peu gêné. Je ne voulais pas me montrer au regard des gens. C'est le novice. C'est le novice qui fait que je peux rapper un peu partout.
C'est grâce au rap aussi que tu as réussi à autant t'assumer ?
Oui. Je suis fier de la personne que je suis aujourd'hui. Et je n'ai aucune honte. Tant que je suis novice, je m'assume.
Du coup, tu vas t'installer pour qu'on écoute ton freestyle.
Avec
si t'es prêt.
Ok.
Tu veux te mettre au-dessus de l'enceinte, peut-être ? Comme tout à l'heure ?
Tu
seras mieux, ouais.
Mon freestyle, il a un titre, c'est Solitaire. Je suis prêt. Je m'en balance, je me cogne à droite, je me cogne à gauche, je prends des murs plein la face, je rencontre des obstacles. Ouais. Je vis, je meurs, je revais comme un phénix, je me consomme comme une cigarette, jusqu'à la dernière taf, je mets des cœurs, je mets des flammes, je me sens solitaire dans ma cage, comme une malédiction qui a pris le dessus. Ouais. Novice. Arrête de te prendre pour le maillon faible. Referme tes blessures, garde ouvert, je m'en bats les couilles. Le paradis m'a laissé dans un tourbillon de feu. Je me sens propulsé au fond des enfers. Et je dois nommer mon âme. Solitaire, c'est le novice.
Nathalie Péqueron, vous êtes professeure de lettres et d'histoire dans ce lycée Gallieni depuis plusieurs années. Et vous avez choisi de nous accompagner dans ce projet Interclasse. Alors d'abord, comment ça s'est organisé ?
Des réunions donc avec les journalistes, les élèves et les étudiants en journalisme à peu près une fois toutes les trois semaines, pendant toute l'année. Et réunions qui nous ont permis de mener ce travail à son terme. Certes, le travail qui a été interrompu pendant le confinement.
Pendant le confinement. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet ?
c'est d'essayer de faire sortir les élèves d'un cadre scolaire classique. Il faut leur montrer que ça a du sens par rapport à l'enseignement. Souvent, ce qu'attendent les élèves, c'est une préparation à l'examen. Ils veulent obtenir leur diplôme. Et donc, ils ne voyaient pas forcément toujours l'intérêt de mener un tel projet.
Et dans votre enseignement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça a apporté quelque chose?
Déjà, ça a changé mon rapport aux élèves. Ça a développé des compétences chez les élèves que j'ai pas trop le temps de travailler avec eux en classe, notamment les compétences orales, justement. Et j'ai vu rapidement les effets que ça a pu avoir sur les cours.
C'est-à-dire?
Par exemple, leur faire travailler un texte pour la préparation de l'émission, leur faire répéter plusieurs fois un texte. Moi, je pense que je n'aurais pas pu y arriver en classe. Et là, je vois qu'avec les journalistes, encadrés par les journalistes, ils ont su très bien s'entraîner à plusieurs reprises à répéter un texte. Et peut-être ils sont plus à l'aise aussi devant les adultes. Ils ont, lors des reportages, été amenés à rencontrer des gens de milieux très différents, des universitaires, des exploitants agricoles, des gens dont ils méconnaissaient en fait le travail. Et du coup, ils sont plus à l'aise dans leur rencontre avec les adultes en général.
Mireille Pen, vous êtes proviseur adjointe ici dans ce lycée Gallieni. Alors d'abord, pourquoi vous avez été heureuse que ce lycée soit choisi?
Bah, si on remet le lycée dans le contexte de l'époque, c'était un lycée qui avait malheureusement défrayé la chronique quelques mois auparavant.
Médiatique.
Voilà, la chronique médiatique quelques mois auparavant pour des raisons liées au comportement des élèves, etc., etc. Donc on avait lancé toute une stratégie de développement d'action qui permettait d'amener les élèves à plus de citoyenneté, de civisme et puis d'ouverture aussi, d'ouverture culturelle. Donc ce projet, il tombait effectivement à pic par rapport à cette stratégie qu'on avait au sein de l'établissement.
On recommence l'année prochaine?
Ah bah oui. Sans problème. Bravo à vous, hein, surtout. Hein, bravo à vous. Hein.
C'était Interclass à Toulouse. Production, rédaction en chef, Éric Valmire.
Réalisation, Lilian Allôme.
Prise de son, Frédéric Kérou, Nicolas Mathias.
Équipe France Inter. Stéphane Iglesis, Fanny Léonore Crouzet, Lise Dussault, Sandra Favier, Capucine Rouault, Axel Gambaracci et l'école de journalisme de Toulouse.
Programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert.
Équipe lycée, Nathalie Pecron, Jody Lindemann, Mireille Penn.